Bonsoir, bienvenue dans Les Amis d'Orwell. Cette semaine, nous allons parler de l'institution judiciaire en rediffusant Tapage. C'est un podcast fabriqué dans la région de Toulouse et diffusé sur l'antenne libertaire Canal Sud. Dans cette émission, qui est d'ailleurs passée hier soir jeudi 11 janvier, vous entendrez des membres du collectif La Sellette qui passent beaucoup de temps au tribunal pour publier des comptes rendus critiques des audiences de comparution immédiate. Filmer et retranscrire la justice, c'est le thème de la dernière émission Tapage, diffusée donc sur Canal Sud à Toulouse et que l'on vous propose ce soir. Tapage réunit notamment des membres du collectif La Sellette qui, depuis maintenant 4 ans, a décidé de chroniquer la justice ordinaire en publiant des comptes rendus critiques tirés des comparutions immédiates qui se déroulent dans la salle 4 du tribunal judiciaire de Toulouse. La Sellette, comme le rappelle le collectif, c'est ce petit siège en bois que la justice de l'Ancien Régime réservait aux accusés, un tabouret taillé sur mesure pour rabaisser et humilier les prévenus face à leurs juges. Alors La Sellette, c'est maintenant un site internet, lasellette.org, donc un site où on peut donc retrouver ses chroniques de la violence judiciaire, mais c'est aussi un livre. Un recueil de quelques-unes de ses chroniques dans un ouvrage paru l'an dernier aux éditions du Bout de la Ville, signé de Jonathan Delisle et Marie Laigle. Dans l'émission qu'on va suivre, on va donc parler de retranscrire la justice, et vous allez entendre des moments rares, c'est-à-dire des extraits de documentaires réalisés dans les tribunaux en prise directe, un fait exceptionnel puisqu'il est toujours interdit de capter des images et du son dans un tribunal sous peine de lourdes amendes. En fin d'émission, il sera d'ailleurs question du procès 13-12 dont nous avons parlé abondamment ici l'an dernier sur Radio Libertaire et Les Amis d'Orwell. Donc le procès 13-12, c'est le procès des Assises de Paris qui a acquitté en décembre 2022 le CRS Alexandre Mathieu, pourtant reconnu coupable d'avoir mutilé notre ami Laurent Théron en 2016. D'ailleurs, son cas a été transmis à la Cour européenne des droits de l'homme qui instruit l'affaire. Nous en saurons un peu plus dans quelques temps. Laurent va justement témoigner tout à l'heure à propos d'une brochure publiée par le collectif Désarmons-les sur leur site désarmons.net. Et cette brochure raconte ce procès donc de décembre 2022 à travers plusieurs témoignages, des comptes rendus, mais surtout des cris de rage, des coups de gueule, dont celui de Laurent lui-même, que vous entendrez donc à la fin de l'émission Tapage, qui commence maintenant.
Vous allez en avoir besoin, madame, ok ?
L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
Quel antécédent judiciaire, vous avez déjà été condamné ?
Vous
parlez de combien d'être convoqué ? Vous avez encore compris,
il fonctionne bien. Entre les parents de ces
policiers-là, ils sont assermentés, monsieur.
Si c'est la dernière fois que vous passez devant un tribunal correctionnel, on se retrouve libre.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Tapage, bruit d'audience en 2024 devient Tapage, qui est aussi un article R624-2 du Code pénal, mais surtout une émission de radio sur Canal Sud 92.2 à Toulouse et aussi sur Fréquence Paris Pluriel FPP. La thématique de janvier 2024 est sur filmer et retranscrire la justice. Nous avions envie de faire ce sujet en lien avec la loi confiance de Dupond-Moretti. Enfin, loi confiance, elle s'appelle vraiment comme ça, cette loi ?
Alors, c'est la loi dont le but est de restaurer la confiance entre les citoyens et, l'institution judiciaire. Vaste programme.
Quel beau projet. Et nous voulions aussi parler du travail de la Sellette à Toulouse. Jonathan, tu as quelque chose à nous dire ?
J'ai plein de choses à vous dire.
Le petit Jonathan.
Le petit Jonathan est présent. Non, juste pour rapidement, c'est que en fait, on n'a pas d'image de procès ou d'enregistrement. On en a très peu. Et pour cause, c'est interdit depuis 1954. Avant, c'était totalement permis, puis il y a eu le développement des appareils photos, et à l'époque, en tout cas, le législateur s'est emparé d'une affaire, l'affaire Dominici, et visiblement, il y avait tellement de photographes avec des appareils photos à lampe qui explosaient un petit peu tout le temps, que ça aurait perturbé la sérénité des débats. Et du coup, en 1954, interdiction de photographie, de film, de toute captation, finalement, même sonore, de ce qui se passe dans une salle d'audience.
Et pour autant, il y a des exceptions. Il y en a une qui est, par exemple, assez connue. Il y a eu des autorisations qui ont été données. Le film « Dixième chambre » de Depardon, qui existe.
Oui, qui est plutôt un bon film d'ailleurs. Donc il y a des autorisations ponctuelles oui, qui étaient données. Il y avait aussi des autorisations pour les, dans l'intérêt public, pour les archives de la justice. Donc on a des grands procès qui sont même disponibles sur YouTube. Celui de Klaus Barbie par exemple, qu'on peut regarder. Et plus proche de nous, d'ailleurs, procès des attentats de Nice, procès du Bataclan, c'est filmé pour les archives de la justice. Mais au final, en dehors de quelques autorisations ponctuelles et quelques procès un peu hors normes ou exceptionnels, le principe, c'est l'interdiction. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de dessins d'audience, et c'est pour ça que aussi le seul média qui retranscrit les audiences, en général, c'est la presse écrite.
Néanmoins, il y a eu récemment une autorisation de donner à France Culture pour enregistrer une après-midi d'audience de comparution immédiate dans la chambre de comparution immédiate de Marseille. Alors l'histoire est un peu curieuse parce que l'autorisation a été donnée puis retirée. Donc on va écouter ça et on va vite comprendre pourquoi finalement la justice a changé d'avis.
Veuillez vous lever s'il vous plaît, le tribunal.
C'est par ici que ça se passe, bonsoir. Est-ce que vous souhaitez être jugé aujourd'hui?
Ouais, je préfère mieux passer dès maintenant.
Vous êtes jugé ce soir. Alors, monsieur, je vais résumer les faits et vous pourrez répondre aux questions, vous taire ou faire des observations, d'accord? Vous êtes né le 3 juin 98 à Marseille.
C'est ça.
Bien, tout jeune majeur donc. Hein. On vous reproche, monsieur, trois faits. Le premier, commis le 17 janvier 2017 à Marseille, sur le territoire national depuis un temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un téléphone portable. Cette soustraction ayant été précédée, accompagnée au suivi de violences, ayant entraîné une incapacité totale de travail, n'excédant pas 8 jours en l'espèce d'eux, on vous reproche exactement la même chose, mais cette fois-ci le 5 février 2017. Là encore, avec une ITT inférieure à 8 jours, pour cette jeune fille, ça a été de 5 jours, encore dans un véhicule de transport collectif puisqu'on était dans une rame de métro. Et enfin, on vous reproche d'avoir le 7 février 2017 volé un téléphone, un iPhone 5C, par violence. Ça oui, parce que là il y a eu une manœuvre justement, c'était pas qu'un vol, pour faire chuter la jeune fille, ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 3 jours. Ce qui est fortement désagréable, c'est les cibles que vous avez choisies. Premier fait, 17 janvier 2017, jeune écolière de 14 ans. Elle se fait arracher son téléphone en plein bus, en pleine journée. Et elle sort du bus, elle tente de vous récupérer, de récupérer son portable, et vous la mettez au sol et vous lui portez des coups de pied. Si, monsieur, vous me laissez terminer parce qu'en plus on a des vidéos à chaque fois. Parce qu'on vous voit très distinctement, monsieur. Hein. Alors là... Dont acte, 15 jours plus tard, jeune écolière aussi de 15 ans, qui, elle, est dans le métro, ligne 1. Elle avait son téléphone portable à l'oreille et, comme elle se le fait arracher, elle va présenter des griffures au niveau de sa joue. 2 jours plus tard, là, on est sur la tentative d'extorsion. Vous aurez la parole, monsieur, mais vous me laissez terminer. 12 ans. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucune limite. C'est tellement facile sur des gamines... C'est honteux, monsieur. Il n'y a même pas de mots. On ne sait même pas comment est-ce qu'on arrive encore à vous regarder comme un être humain. 3 jours d'ITT pour un téléphone que vous allez sauvagement revendre contre 20, 30, 50 euros. Parce que, ben ouais, vous n'avez pas de sous. Alors, on le sait, vous êtes suivi par un psychiatre qui, effectivement, explique que vous êtes atteint d'une psychose infantile avec difficulté de concentration et difficulté scolaire. Mais si tous ceux qui avaient du mal à se concentrer, qui avaient du mal à l'école, devaient agresser des jeunes filles de moins de 15 ans, ça se saurait. Alors, monsieur, comment ça se fait qu'on s'attaque à des jeunes filles comme ça?
Déjà, je voudrais m'excuser. J'avoue être l'auteur de ces trois faits. Je voulais pas ça. Je sais pas qu'est-ce que c'était comme maladie. Ouais, comme maladie. Je savais pas que ça pouvait entraîner tout ça. Je regrette vraiment, surtout sur les 48 heures que j'ai endurées. Déjà, ils m'ont déjà fait déjà repenser à ce que je devrais faire, enfin, et refaire de bien, ce qui est de bien sur une personne honnête, qui devait être honnête et ponctuelle.
Est-ce qu'elle vous donne à manger, votre mère?
Oui, elle me donne.
Alors c'est quoi là? Vous n'êtes pas tout nu? Vous avez besoin d'habits? Vous avez besoin de manger? C'est des actes gratuits que vous avez fait, monsieur. Vous voulez de l'argent pour vous, mais l'argent pour vous, va falloir vous le gagner vous-même et honnêtement. Et pas sur le dos de trois jeunes filles. Oui, mais trop tard, parce qu'en attendant, vous avez fait trois victimes, monsieur. Eh bien, c'est bien beau, mais vos excuses, c'est pas la juridiction qu'il faut les adresser, monsieur.
Madame la procureure, s'il vous plaît. Il y a des moments où il n'y a pas d'excuses à formuler parce qu'il n'y a pas d'excuses possibles. Car, permettez-moi de dire que monsieur s'est vraiment tout autorisé. Et je sais qu'il n'a pas choisi ses victimes par hasard. Quand je vois que, par exemple, pour les faits du mois de janvier, la victime qui arrive au commissariat et à laquelle on demande, au travers d'une parade d'identification, d'identifier son agresseur, quand je lis qu'un enquêteur écrit... À ce moment-là, la jeune fille s'effondre et tremble. Elle éclate en sanglots et se jette dans nos bras. Et vous venez présenter des excuses. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais on se dit si c'était ma fille qui avait été à la place.
Taisez-vous. Madame la procureure,
même pas,
vous ne même pas vous parler comme ça aux policiers. C'est bien clair, monsieur? Monsieur, vous vous taisez.
Taisez-vous, monsieur. Vous êtes odieux et en plus vous faites semblant de vous excuser. Alors taisez-vous.
Taisez-vous.
Chute.
Taisez-vous.
Chute.
Pour prendre quoi? Ah, un téléphone portable. L'objet du siècle. Celui qu'on va aller revendre au marché aux puces pour une somme de 50, de 60 euros. Vous serez peut-être engagé d'ici 4 ans, 5 ans, 6 ans dans une émission de télé-réalité où vous viendrez nous expliquer le bonheur que vous avez eu à agresser des gamines. Mais enfin, dans quelle société on vit? Dans quelle société on vit? Mais qu'est-ce que c'est que cette société où des individus qui sont soi-disant pris en charge par leur famille n'ont même pas la conscience? Je dis même plus de ce qui est autorisé ou interdit, parce que de toute façon, dans
Madame
cette société...
S'il vous plaît. Vous faites sortir cette dame qui n'arrête pas de faire des signes à monsieur. Du coup, il n'écoute rien. Et c'est pour ça que le policier derrière vous vous a rappelé à l'ordre.
Vous êtes non. Qui, madame?
Vous êtes toujours derrière.
Bon, mais alors dehors.
Voilà. Vous avez tout gagné. Maintenant, vous finissez d'entendre, merci, madame le procureur, et vous ne dites plus rien. Plus rien. C'est clair?
Je vous en prie, madame le procureur.
Je vous en prie, madame la présidente. Il faut tout tolérer. Il faut tout pardonner, même moi, non. Je suis désolée. Il n'y a pas marqué sœur Teresa. À un certain niveau de gravité, je ne pardonne pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon métier de pardonner. Qu'on ne vienne pas me dire, mais on va me le dire, je le sais, que ce qui fait agir, monsieur, c'est sa maladie. Donc, ce n'est pas la peine de penser qu'il va falloir imposer à ce garçon une obligation de soins, parce que l'obligation de soins, il l'a déjà, parce que les soins, il les a déjà entrepris, et parce que malgré les soins qu'il a entrepris, il a choisi son mode de vie. Et face à l'indignité de tels actes, le ministère public que je représente ne peut que vous demander une peine de 5 ans d'emprisonnement. Et encore, je me retiens pour ne pas demander le maximum, c'est-à-dire 7 ans.
Merci, madame le procureur. Maître, s'il vous plaît, c'est pas vous. Cet homme-là, quand je l'ai rencontré tout à l'heure dans les geôles, m'a confirmé qu'il avait pris conscience, qu'il regrettait. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des excuses qu'il tenait à formuler à
de multiples reprises devant le procureur qu'il a reçu tout à l'heure lors de son déferrement. J'ai également rencontré une personne qui, oui, présentait une fragilité psychologique, psychiatrique même peut-être, extrêmement importante. Et c'est d'ailleurs manifestement ce qui a motivé un placement en établissement psychiatrique courant le mois de décembre, je crois, dernier. Donc c'est un placement qui est relativement récent. Et c'est ce qui a motivé qu'on lui prescrive effectivement un traitement. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec les réquisitions de Madame le procureur. C'est que sa place, manifestement, à cet homme-là, elle n'est pas en détention. Parce que cet homme, il a besoin d'un suivi, il y a un suivi qui s'impose à lui. C'est-à-dire que lorsqu'il a fait l'objet de son hospitalisation par le biais de sa mère, je crois, c'est sa mère qui a fait en sorte qu'il aille consulter un spécialiste, mais il ne fait pas l'objet d'un suivi psychiatrique qui s'impose à lui. Et à mon sens, c'est ce sur quoi il va falloir remédier. Pour en revenir, un mot simplement sur les coups qui ont été portés à ces trois jeunes filles. Effectivement, ils existent, mais manifestement, ce qui ressort des différents procès-verbaux, c'est que ces coups ont été donnés principalement pour déséquilibrer leurs victimes et pour, effectivement, leur dérober leur téléphone portable. Je signale simplement que monsieur n'est pas coutumier de ce genre de fait. Il a un casier judiciaire qui est absolument vierge. Encore une fois, il a indiqué et répété qu'il avait agi par pulsion. Et ce qui lui manque manifestement, c'est un suivi psychologique, psychiatrique, très sérieux et qui s'impose véritablement à lui.
Monsieur le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, le tribunal vous condamne à une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme, dont 6 mois sortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans. Quand vous sortirez de vos 4 ans et demi de détention, vous avez une obligation de soins et une obligation d'indemniser les victimes. Le tribunal décerne donc un mandat de dépôt, monsieur.
Bon, à chaque fois qu'on le réécoute, c'est un petit peu saisissant. 4 ans et demi avec mandat de dépôt pour 3 vols de téléphone. Bref. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette comparution immédiate, mais en se calant finalement à un concentré de la comparution immédiate. Mais ce qui nous intéresse pour l'émission d'aujourd'hui, c'est que voilà une journaliste, alors c'est Pascal Pascariello, qui pour France Culture avait obtenu une convention avec le tribunal de grande instance de Marseille pour pouvoir diffuser des extraits d'audience pour l'émission Les Pieds sur Terre. Le 10 février 2017, elle assiste à cette audience et finalement, le tribunal de grande instance de Marseille, après écoute, parce qu'ils écoutent, a décidé de briser la convention avec France Culture. Alors c'est ce qui est quand même étonnant aussi, c'est que la présidente que vous avez entendue et qui condamne à 5 ans de prison ce jeune majeur, elle a entendu le reportage et elle n'avait rien trouvé à y redire. C'est sa hiérarchie qui a préféré briser la convention avec France Culture.
Mais est-ce que ça veut dire que ce reportage a quand même pu être diffusé et que le fait de briser la convention, ça a concerné ce qui s'est passé après ? Ou est-ce qu'il y a eu aussi des difficultés à diffuser ce reportage ?
Non, il a vraisemblablement été diffusé. Je crois que c'est le 20 février 2017 qu'il a fait l'objet d'une diffusion. Toute cette histoire est racontée par Mediapart, surprise en plein dérapage, la justice censure France Culture. Ce qui nous a intéressé, nous, c'est que voilà une audience de comparution immédiate qui est enregistrée sans filtre et qui est diffusée. Et les magistrats, la hiérarchie judiciaire, trouvent que c'est odieux et préfère cacher finalement cette justice qui se produit tous les jours dans les tribunaux. Ils ont même prétexté que le montage réalisé par Pascal Pascariello était partial, et que c'était du hors contexte. Alors, le site Mediapart a publié l'intégralité de l'enregistrement, ça dure 48 minutes, et on ne peut que constater quand on écoute que le montage retranscrit assez fidèlement ce qui s'est passé à cette audience.
Mais par ailleurs, quand on va en comparution immédiate régulièrement, peut-être sans que ça aille toujours aussi loin, on sait bien que ce genre de dérapages sont monnaie courante. À ce stade, je ne sais même pas si on peut parler... Enfin, c'est certainement un dérapage, ça va très très loin. Mais l'agressivité, la violence des magistrats envers les prévenus, les humiliations, le fait de ne pas leur laisser la parole, le fait de sans arrêt leur couper la parole, le fait parfois... de se moquer d'eux, de ne pas croire ni leurs raisons, ni leurs excuses, ni leurs explications. Ça, ce sont des choses très fréquentes en comparution immédiate. Donc, que la présidente, elle, la présidente de chambre, ait validé, à la limite, je pense que c'est l'ordinaire de son métier, je l'espère quand même pas, mais je pense qu'elle a trouvé que c'était relativement normal et que sa hiérarchie s'en émeuve. Peut-être que ça dit aussi qu'ils ne vont pas très souvent en comparution immédiate.
En tout cas, c'est sûr que de notre point de vue, ou en tout cas pour quiconque fréquente les salles de comparution immédiate, est-ce qu'on peut qualifier ça de dérapage ou est-ce que c'est plutôt l'expression ordinaire de la violence judiciaire dans les tribunaux en France? En tout cas, voilà cette expérience de 2017 où on a une convention, elle est brisée, vraisemblablement certains magistrats ou en tout cas... En tout cas, le président du tribunal de grande instance de Marseille préfère cacher cette justice qui se pratique dans les tribunaux. Et en fait, on va en rester là pendant encore quelques années. Il va y avoir des tas de rapports sur la nécessaire possibilité qui doit être donnée aux gens de filmer ou d'enregistrer des audiences. Le principe, c'est quand même celui-là, c'est que la justice, elle est publique par principe. Tout le monde peut assister aux audiences et qu'elle est rendue au nom du peuple français. C'est-à-dire que, théoriquement, dans l'idée républicaine, le citoyen doit pouvoir voir et par son regard finalement contrôler la justice qui est rendue en son nom. Et finalement, cette actualité-là de retranscrire la justice, elle va avoir un nouveau développement en 2021. Donc 2021, c'est la loi confiance d'Éric Dupond-Moretti. D'ailleurs, il s'en explique dans un extrait qu'on vous propose d'écouter.
Je pense qu'il est indispensable que l'on ait confiance dans la justice comme on doit naturellement avoir une inébranlable confiance dans la police de notre pays. Ce sont des institutions républicaines essentielles.
Les Français ont beaucoup plus confiance dans leur police que dans la justice.
J'entends bien. Moi, je suis ministre de la Justice. Et quand je veux que la justice soit filmée, c'est pour que l'on voit justement la réalité, la quotidienneté, l'âpreté de la difficulté. Je veux que les Français voient comment la justice qui est rendue en leur nom est rendue.
Alors, bon, vous aurez reconnu Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Au passage, on remarquera comment il lie la confiance des citoyens dans la justice et qui fait le parallèle entre la confiance inébranlable que doivent avoir les citoyens envers la police. Sur l'étude d'impact du ministère, on voit qu'en fait, à peu près un Français sur deux n'a pas confiance dans la justice de son pays. Ils sont énormément à ne pas les penser indépendants ou impartiaux. C'est donc pour restaurer cette confiance-là qu'Éric Dupond-Moretti, dans ce projet, prévoit de pouvoir plus largement filmer les audiences. Et juste pour l'anecdote, dans cette loi... qui vise à rétablir la confiance brisée entre les citoyens et la justice. Il y a d'autres mesures, je n'ai pas le lieu d'en parler là, mais quand même, il s'agit notamment de supprimer les crédits de réduction de peine pour les détenus, voilà, qui est de nature, selon Éric Dupond-Moretti, à redonner confiance dans la justice. Il s'agit aussi, et ça c'est quand même curieux pour l'ancien avocat que c'est, de faire disparaître des jurés de cours d'assises pour les affaires de viol, notamment. Je ne dis pas que la cour d'assises, c'est la panacée, mais pour jusqu'à 20 ans encourus, donc braquage ou viol, c'est par cette loi aussi que c'est jugé en cour criminelle départementale, c'est-à-dire exit les jurés des formations de jugement, ce qui est un drôle de moyen de redonner confiance aux citoyens dans la justice, en les excluant finalement de la justice elle-même. Alors, je referme la parenthèse.
Du coup, concrètement, cette loi, ça fait quoi, si je comprends bien? C'est que ça multiplie, enfin, ça espère en tout cas démultiplier les autorisations de filmer, mais ceci exclusivement dans certaines conditions particulières, à savoir pour, par exemple, les télés régionales et nationales, et toujours accompagnées d'un discours pédagogique.
Oui.
Et d'ailleurs, je dois dire, pour l'anecdote, que nous avons nous-mêmes déposé une demande d'enregistrement, parce qu'après tout, pourquoi pas.
Oui.
Et voilà, donc nous avons expliqué, nous avons été relativement honnêtes, nous avons expliqué que c'était dans une perspective critique, et nous attendons la réponse pour savoir si nous avons le droit de poser un micro dans cette salle d'audience.
Non. On aimerait d'autant plus le faire que ça a été déjà fait, en fait, à Toulouse, je crois que c'était au printemps dernier. Et les caméras de France 3 sont donc venues assister toute une après-midi à l'audience dans la salle 4 du tribunal de Toulouse, l'audience de comparution immédiate. Ça s'appelle enquête de région, je crois.
On va écouter de toute façon une série d'extraits qu'on va commenter. Par ailleurs, c'est d'autant plus intéressant, notamment pour moi, parce qu'il se trouve que par hasard j'étais moi-même dans la salle cet après-midi-là. Et
moi-même, Marie de la Sellette.
Marie de la Sellette dans la salle à ce moment-là. Et c'est peu de les dire que France 3 et moi, on n'en a pas pensé la même chose.
C'est une justice ordinaire. Une justice du quotidien.
Alors, monsieur, est-ce que depuis 3 jours, vous avez réfléchi un peu ?
Oui, madame.
Alors, vous en pensez quoi aujourd'hui, monsieur, de votre comportement ?
Entre ces murs, des concentrés de vie, des destins qui se heurtent à la justice des hommes.
J'ai passé 4 jours en garde à vue. Ça m'a fait un choc.
Les délits les plus graves commis sur la juridiction de Toulouse, jugés au plus tôt 5 jours sur 7.
On est en matière pénale, on est en matière de nullité pénale, maître. Bon, on n'est pas devant.
Pardon, mais qu'est-ce que ça change? Je vois pas très bien.
C'est le même code.
Mais c'est la même garde à vue. On peut le
des débats contradictoires.
C'est la même garde à vue et c'est les mêmes droits.
Des condamnations. L'espoir d'obtenir une deuxième chance.
La justice, nous la rendons pour sanctionner les prévenus, mais aussi pour réparer les victimes.
Une journée comme une autre, de comparution immédiate.
C'est pas un métier ordinaire.
Du coup, on vient d'écouter l'introduction du reportage de France 3. On notera le piano.
Ça donne le ton, hein. Ouais. Merveilleux piano. Si chez vous, vous jouez du piano et vous voulez nous composer une jolie mélodie, on la prend. Hein, rue Alfred de Méril, Canal Sud. Voilà, vous nous écrivez, ça sera avec plaisir qu'on la passera.
Donc après cette introduction très mielleuse et qui donne un peu l'atmosphère générale du documentaire, à savoir un documentaire qui donne la parole aux magistrats et qui globalement trouve que la justice, ça se passe bien, ça se passe extrêmement bien. Les comparutions immédiates, c'est chouette, quoi. C'est là pour, c'est des concentrés de vie, des destins qui se heurtent à la justice des hommes, mais c'est aussi là pour réparer les victimes.
Ah, et puis c'est aussi, c'est là que sont jugés les faits les plus graves. Mmh. Je sais pas, la comparution immédiate, c'est le règne du petit vol de téléphone portable, du tout petit trafic de stupéfiants. Déjà, ça donne le ton, quoi.
Ouais. Ce qui va se passer après cette introduction, c'est que le reportage va un peu rentrer dans les détails de plusieurs affaires. La première affaire dans laquelle le reportage rentre un peu, c'est une histoire de racket, vol avec menace d'une arme, le fils d'un industriel tunisien qui a racketté un type, visiblement pour le plaisir, parce qu'il n'avait pas de problème d'argent. Voilà, on entend longuement le témoignage du jeune homme victime de ce racket. On entend aussi le prévenu s'exprimer. Ces 2 derniers jours, j'ai vu la prison. En aucun cas, je ne me vois là-dedans. J'étais complètement abattu. Donc, on comprend bien l'idée. C'est un garçon sans problème matériel particulier, sauvé de ses mauvais penchants et de leur délinquance à moindre frais, parce qu'un très bref passage de 2 jours à la prison de Saïs lui a permis de réfléchir un petit peu à ce qu'il avait fait. Il y a par ailleurs quelque chose qui apparaît au montage, il n'y a pas le son, mais qu'on voit dans les images avec une voix off dessus, c'est la réconciliation finalement des parties. Le père du prévenu, présent dans la salle, parle avec la victime qui hoche la tête en souriant. Donc on ne sait pas ce qu'ils se disent, mais le message visuel est très clair, c'est-à-dire que finalement... victime, prévenu, chacun sort de cette audience plus serein, réparé, comme dit la magistrate.
Apaisé, réconcilié. C'est de la justice restaurative, en fait, ce qui se passe en comparution immédiate.
Par ailleurs, c'est un documentaire qui, comme on disait tout à l'heure, laisse beaucoup, beaucoup de place à la parole des magistrats. On va maintenant entendre 2 extraits. Le premier, c'est le procureur de la République, qui explique un peu pourquoi envoyer en comparution immédiate. Et le deuxième, c'est la présidente de la chambre de comparution immédiate.
Le procureur, c'est pas lui qui juge, hein. Il accuse, mais il a un devoir d'impartialité, c'est-à-dire qu'il doit aussi viser la manifestation de la vérité. Hein. Ce qui nous importe, c'est l'honnêteté, l'impartialité, la vérité. Voilà. Donc on ne doit s'engager dans une action de poursuite que lorsque l'on est convaincu de ce qu'on va présenter au tribunal.
Le tribunal se retire pour délibérer.
Le délibéré, c'est le temps du jugement. La présidente et ses 2 juges assesseurs se retirent pour débattre à 8 clos.
Pour délibérer, il faut savoir que le président n'a pas de voix prépondérante et que les 3 magistrats que nous sommes discutent absolument à égalité et que les décisions se prennent à la majorité.
De façon indépendante.
De façon indépendante.
Sous pression de l'opinion, ça peut peser dans un jugement.
Pas vraiment, parce que l'expérience fait qu'on arrive à se détacher, de ce qui se passe autour. Nous sommes des professionnels, nous utilisons des techniques, comme un médecin utilise des techniques lors d'une opération, et non, on ressent pas cette pression-là.
Parce qu'il y a le code pénal qui est votre Bible,
oui.
Et votre perception du dossier.
Oui, et c'est les seules choses qui comptent, en fait. C'est pas ce qui se passe autour.
Donc voilà, on voit bien que là, le micro leur est tendu pour que la présidente et le procureur puissent dire tout le bien qu'ils pensent de leur profession. Et par ailleurs, avec absolument pas de contradiction. L'intervieweur n'intervient que pour leur permettre de préciser un point et toujours très en leur faveur. Là, il les interroge sur la pression de l'opinion et ça donne l'occasion à la présidente de chambre de dire que non, les magistrats sont absolument indifférents à l'opinion publique et à ce qui se passe par ailleurs.
Par ailleurs, on notera que les 2 personnes qui sont amenées à commenter et qui sont interviewées dans ce reportage sont des magistrats, un procureur et une présidente, c'est-à-dire qu'on n'a pas cru bon d'inviter à la table un avocat, par exemple, de la défense, pour pouvoir un petit peu dire ce qu'il pense de la défense en comparution immédiate. Et finalement, à quoi bon un avocat, à quoi bon une défense quand on a un procureur qui nous explique qu'il a un devoir d'impartialité et que lui, ce qui lui importe, c'est pas la répression, mais bien la recherche de la vérité. C'est vrai que tout a l'air de tellement bien se passer qu'on voit pas exactement pourquoi on s'embêterait de poser des questions à un avocat.
L'extrait d'après est, à mon sens, particulièrement frappant parce qu'il parle de la peine. Et pour rappel, en comparution immédiate, les peines de prison avec mandat de dépôt, c'est-à-dire avec incarcération le soir même, sont les plus courantes.
La peine, si elle est expliquée, si elle est adaptée, si elle est juste, elle peut être comprise et avoir un effet, avoir un impact. Il se passe des choses derrière. Une décision de détention, ben derrière, c'est plusieurs mois d'enfermement, avec du temps aussi pour réfléchir à ce qu'on a fait. Un sursis probatoire, c'est un suivi qui peut aller jusqu'à 3 années par un juge d'application des peines. Donc, on va avoir un suivi qui va avoir un effet quand même, avec des exigences de soins, des exigences de travail, qui peuvent modifier la vie de quelqu'un. Donc, non, il ne faut pas être pessimiste sur le sens de la peine et sur l'utilité qu'elle a.
Et du piano et encore du piano. Voilà, ça c'est un passage qui est un peu magique. Ce moment où elle parle de la prison qui permet d'avoir du temps pour réfléchir à ce qu'on a fait. À l'entendre, on a l'impression que c'est une retraite dans un monastère, un louable moment d'introspection. Et c'est totalement hors sol de ce qu'est la réalité de la prison, et entre autres de la prison de Seyss, où on sait que les conditions d'incarcération sont plutôt cauchemardesques. 3 dans des cellules de 9 mètres carrés, des conditions extrêmement difficiles, rien à voir avec une charmante cellule monacale, enfin une charmante cellule monacale, une tranquille cellule monacale où on pourrait prendre le temps de penser un petit peu à sa vie.
Oui, s'amender, se réflexion, comment j'en suis venu là, quels ont été mes errements, qu'est-ce que il doit être réparé chez moi pour que je puisse à nouveau redonner à la société. Bref, on est en fait, et c'est ce dont on se rend compte là petit à petit, en fait c'est pas une audience de comparution immédiate, c'est une entreprise de propagande du ministère de la Justice. C'est véritablement un spot publicitaire, ni plus ni moins, mais on va continuer.
Bien, le tribunal va se retirer pour délibérer.
Après délibération, le tribunal a tranché. 3 des 4 prévenus ne resteront finalement pas en prison dans l'attente de leur procès.
Même si le fond du dossier n'est pas examiné, on prend quand même en compte la nature des faits, leur ancienneté, le fait donc que ce trafic s'était donc arrêté. Et on essaie d'établir s'il y a un risque de récidive, et s'il y a un risque que ces personnes ne se représentent pas devant le tribunal le jour du jugement. Et là, pour 3 d'entre elles, le tribunal a estimé qu'on pouvait leur accorder suffisamment de confiance pour ne pas les incarcérer et les placer sous contrôle judiciaire.
La nuit tombe sur le tribunal de Toulouse. Peu importe l'heure, toutes les affaires de ce lundi doivent être jugées. Le temps qu'il faudra pour écouter, convaincre, débattre, délibérer.
Mais encore une fois, une merveilleuse opération de communication qui vient enfin montrer aux citoyens à quel point la justice fonctionne bien. On prendra le temps, tout le temps qu'il faudra. Bon, bah alors, sachant qu'on sait qu'à peu près une affaire en comparution immédiate, hein, c'est un peu plus d'une demi-heure délibérée compris. Bon. Et là, finalement, on a un happy end, on nous dit, mais la justice a fait confiance à 3 prévenus sur 4. Ils ont demandé un délai pour préparer leur défense, et les voilà libres sous contrôle judiciaire. Bon, bah, c'est déjà ne pas parler du quatrième, qui, lui, n'a pas été placé sous contrôle judiciaire, mais qui a été maintenu en détention. Cette personne-là, on va pas la voir du tout du reportage. C'est-à-dire qu'après, on verra les autres un petit peu s'exprimer. On verra, d'ailleurs, une avocate plaider pour l'une de celles qui finalement va être relâchée, mais il y a un quatrième qui a été complètement invisibilisé là-dedans et qui lui part en détention. Marie, tu étais à l'audience.
Effectivement, j'étais à l'audience. La quatrième personne, c'était le seul qui avait un casier et qui était au chômage, ce qui justifie, aux yeux de l'institution, le fait qu'on l'envoie en détention provisoire. Parce que c'est vrai que là, on a des magistrats qui nous parlent de confiance, de faire confiance aux prévenus, mais en fait ils ne s'attardent pas sur ce qui motive cette confiance ou pas. Et or on sait en comparution immédiate que la dite confiance, en fait, c'est le fait d'avoir un casier judiciaire ou pas, d'avoir des garanties de représentation, d'avoir un travail, d'avoir un logement, d'avoir une famille.
Parce que ce qui n'est pas dit, et ce que nous a pas dit le procureur de la République tout à l'heure, hein, il nous parlait de la gravité des infractions, que c'est pour ça qu'on envoyait les gens en comparution immédiate. Or, en fait, c'est surtout une question de profil. Et quand la présidente nous dit on a décidé de faire confiance à trois personnes, on aurait aimé savoir, mais et pourquoi pas la quatrième ? Or, et heureusement, Marie était là à l'audience, et ce qui le distingue des autres, c'est juste qu'il avait eu une condamnation et qu'il était au chômage. C'était le seul dans une situation de précarité économique. Est-ce donc à ce titre qu'on ne pouvait pas lui faire confiance pour revenir à l'audience ? Bon.
Et le compte-rendu est disponible sur le site de la Sellette, lacellette.org. Il s'appelle « Une question de profil » et il a été publié en avril 2023 pour ceux et celles qui voudraient le lire intégralement.
Il nous reste encore un petit extrait de ce reportage.
Toutes les infractions intrafamiliales, effectivement, c'est quelque chose de très très complexe. Et puis les violences conjugales, c'est vraiment un peu la hantise hein, du parquet, parce que on est de plus en plus saisi d'énormément hein, d'affaires. Et que donc on a un tri, une évaluation très importante à faire hein, du risque de récidive, et donc cet objectif de protection des victimes. Et donc on doit apporter la réponse pénale hein, la plus adaptée.
On ne connaît pas forcément d'ailleurs l'historique du couple. On a souvent deux versions un peu opposées de ce qui a pu se passer. Ce sont des dossiers qui sont compliqués parce qu'effectivement, on est vraiment dans tout ce qui est le plus humain possible.
Là, le procureur commence par parler de la question des violences conjugales. Et effectivement, les violences conjugales en comparution immédiate sont devenues une part importante des audiences de comparution immédiate. Au niveau national, environ 20% des affaires traitées en comparution immédiate sont des affaires de violences conjugales. Par contre, c'est vrai qu'à les entendre, c'est un endroit où on est là aussi pour écouter et réparer les victimes. Bon, l'observation nous fait quand même constater que c'est loin d'être toujours le cas, voire plutôt rarement le cas. L'audience est un lieu de violence important, souvent pour les victimes aussi, qui sont bien souvent pris dans le même mépris que le prévenu contre lequel elles ont porté plainte, ne serait-ce de temps en temps que parce qu'elles ont le grand tort d'avoir une relation amoureuse avec lui. Et il y a de multiples exemples où les victimes sont brutalisées par les magistrats eux-mêmes. On peut en lire notamment sur le site de la Sellette, il y a plusieurs exemples de ça.
Oui, soit on leur reproche de ne pas être partie plus tôt, soit on leur reproche de ne pas vouloir, d'exprimer le fait qu'elles ne veuillent pas que leur compagnon aille en prison. On en a trois ou quatre, je pense, hein, comme ça. Bon, au-delà de ça, ce qui m'interpelle un peu, c'est quand on entend que, pour la première fois, on nous dit « mais là, c'est plus compliqué ». Là, il y a un contexte. Souvent, on ne connaît pas, nous dit la présidente, on ne connaît pas l'histoire de leur relation amoureuse. On est dans l'intimité, c'est parole contre parole. Et donc là, va surgir de la complexité. C'est à croire donc que sur toutes les autres affaires qui ont été jugées, il n'y a pas de complexité. On ne va pas s'interroger à la trajectoire personnelle de la personne, pourquoi il a volé, comment il en est arrivé là, comment il est arrivé en France s'il s'agit d'une personne étrangère. Et le parole contre parole, bah, bien souvent, les seuls constatations qu'il y a dans un dossier de comparution immédiate, c'est des constatations policières. Et alors là, si on devait s'aventurer, si un prévenu essaye de s'aventurer à dire « mais enfin, c'est parole contre parole, les policiers disent ça, c'est pas vrai, on va leur dire, mais en fait, vous pensez vraiment que les policiers ont menti ?» Alors que là, dans les affaires de violence conjugale, bah, on va dire c'est plus complexe, c'est parole contre parole, il y a un contexte, comme si dans les autres dossiers, il n'y avait pas de contexte.
Et pour finir, on va écouter un dernier extrait de ce documentaire.
L'exécution provisoire, accusé, ça veut dire que cette peine s'applique
jugé,
tout de suite, même si vous faites appel de cette
décision. Expliquer la peine, le quotidien du tribunal. Les agressions,
les vols, les trafics, charriés par vagues. À chaque fois, une histoire singulière qui échoue entre les mains des magistrats.
C'est un travail aussi de mettre aussi à distance des situations qui ont pu être dures, difficiles. Et puis surtout, de regarder chaque nouvelle affaire comme une affaire neuve et de ne pas plaquer non plus des choses qu'on a pu... Et de pas entrer dans une routine ou dans une lassitude. Et ça, c'est vrai que c'est très, très important.
On ne ressort pas indemne forcément de toutes les audiences. Hein. Certains dossiers nous touchent ou nous marquent plus que d'autres. Malheureusement, on n'a pas chez nous de débriefing après les audiences ou de soutien psychologique après les audiences. Mais... Donc parfois, ce sont plutôt entre collègues hein, qu'on va évoquer les dossiers, qu'on va éprouver le besoin d'en parler, parce qu'il s'est passé des choses qui nous ont touchés, qui nous ont affectés. Mais après, bon, on reste quand même avant tout des professionnels, donc on arrive à prendre de la distance.
Se tenir au contact et à distance.
À la peine de 18 mois d'emprisonnement.
Sanctionné et protégé.
L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir.
Le défi des magistrats.
Vous condamne à la peine de 12 mois d'emprisonnement.
Ces 12 derniers mois, le tribunal de Toulouse a jugé 1800 auteurs présumés des délits les plus graves au fil de 243 journées d'audience. Un mouvement perpétuel, ce n'était qu'une journée de comparution immédiate.
Ce piano. C'est vraiment délicieux.
Je dois quand même dire que, comme je disais, moi j'étais à cette audience et au-delà des points particuliers qu'on a pu critiquer, c'est que l'impression d'ensemble donnée par ce documentaire n'est pas du tout réaliste et sur ce qu'est vraiment une après-midi de comparution immédiate. Là, par exemple, comme je disais, ils ont fait un petit focus sur trois affaires particulières. Les trois affaires ne sont pas... Les prévenus qui sont présentés un peu plus particulièrement ne sont pas du tout représentatifs des prévenus habituels. Il y avait deux étudiantes en école d'infirmière, il y avait le fils d'industriel dont on parlait tout à l'heure, et il y avait un agent d'entretien. L'immense majorité des prévenus en comparution immédiate sont des personnes qui sont dans une très grande précarité. Une partie considérable ont arrêté les études au collège ou au lycée. Une partie considérable aussi vivent dans la rue, ont des problèmes psychiatriques importants, ne travaillent pas. Ça donne une impression extrêmement fausse du type de prévenu qui est habituellement envoyé en comparution immédiate.
Mais par ailleurs... Là, tu disais, t'as assisté à toute l'audience, et là, on a, j'ai l'impression, à chaque fois, un relatif happy end, où finalement, il n'y a pas de prison, mais les autres, ils sont tous partis en prison.
Oui, bien sûr. Il y a 11 prévenus, 11 prévenus par audience. Bon, je ne les ai pas tous vus, mais les quelques-uns que j'ai vus cet après-midi-là, en dehors des trois cas dont il a été question plus particulièrement dans ce documentaire, sont tous partis en prison avec mandat de dépôt. Voilà.
Nous allons écouter Funboy 3. Funboy 3, c'est un groupe de Coventry en Angleterre, avec trois membres du fameux groupe de Two Tone, The Specials. La chanson s'appelle « Our Lips Are Sealed ».
Vous êtes toujours dans Les Amis d'Orwell, sur Radio Libertaire, et si vous êtes un peu dépaysé, c'est normal. Ce soir, nous passons la main à l'équipe de l'émission Tapage sur Canal Sud à Toulouse, animée par des membres du collectif La Sellette. Et le thème du jour, c'est retranscrire la justice.
Doesn't matter what they say. No one listens.
Toi, Marie, tu fais des comptes rendus d'audience depuis 3 ans pour la Sellette, donc la sellette.org. Qu'est-ce que tu regardes ?
Ben, moi, quand je vais en comparution immédiate, ce que je regarde plus particulièrement, mais qu'à mon avis, la seule chose qu'on peut regarder, c'est l'institution elle-même, c'est les magistrats. Il y a vraiment quelque chose que je trouve toujours inacceptable, c'est les comptes rendus qui prétendent dire des choses des prévenus. Les prévenus en comparution immédiate, en fait, ils ont très peu la parole. Quand ils prétendent dire quelque chose, on les coupe très rapidement. On l'a bien vu effectivement dans l'extrait de France Culture tout à l'heure, on ne les laisse pas parler. Pour peu qu'ils ne soient pas d'accord avec la version policière, on les empêche de parler immédiatement. Les seules informations qu'on a sur eux viennent soit du dossier policier, c'est leur casier judiciaire, soit de l'enquête sociale rapide, l'ESR. L'ESR, c'est une enquête qui est faite pendant qu'ils sont dans les geôles du tribunal, le matin même, en une demi-heure le matin, ils doivent répondre à un questionnaire. Et à partir de ça, on devrait penser quelque chose de leur vie, de leur parcours, des faits qui les ont amenés là. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est inacceptable. La seule chose qu'on peut regarder dans ces audiences, c'est la justice, et c'est les magistrats, c'est la justice elle-même, c'est l'institution. C'est certainement pas les personnes qui sont dans le box. Ce qu'on voit très fort en comparution immédiate, et c'est ce qu'on a vu aussi dans l'extrait du début de France Culture, c'est la très très grande violence de ces audiences. C'est une justice de classe, c'est une justice raciste, c'est une justice d'une grande brutalité qu'incarcère à tour de bras des milliers de personnes par an. On le dit aussi souvent, les comparutions immédiates remplissent les prisons.
Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que France 3 a oublié peut-être de raconter, ou ils ont oublié de se renseigner, ou alors ils n'ont pas voulu le dire. Mais on sait que la France là, bat des records d'incarcération chaque année. On en est à presque 76 000 détenus. La plupart de ces détenus sont en maison d'arrêt, et la plupart de ces détenus en maison d'arrêt viennent tout simplement des audiences de comparution immédiate. On nous parle de la prison tout à l'heure, on entendait la présidente nous dire il faut que la peine ait du sens, si la peine elle est comprise, l'individu peut s'amender, il peut réfléchir en prison. Réfléchir à quoi ? À la maison d'arrêt de Seyss, on parle de gens quand même qui sont enfermés dans des cellules de 9 mètres carrés à 3, et ils y sont bloqués là-dedans 22 heures sur 24. C'est-à-dire, enfin, je suis désolé, mais c'est, il y a un arrêté de 1985, je crois, hein, sur les chenilles. La loi, elle exige 5 mètres carrés pour chaque chien. Un détenu dans une maison d'arrêt en France, il a moins de surface qu'un chien dans une SPA ou dans un chenil. Et ça, je veux dire, faire un reportage sur les comparutions immédiates, sans parler de la prison, sans parler que c'est une procédure qui incarcère massivement, sans parler du peu de droit de la défense, du peu de droit tout court qu'il y a là-dedans, sans parler du profil des prévenus qui y sont envoyés, bon, ça sert à rien à part être un outil de propagande au service du garde des Sceaux.
Et comment tu sélectionnes les articles qui sont diffusés ? Ou par exemple ceux dans le livre que vous avez sorti aux éditions du Bout de la Ville ?
Je sélectionne pas. C'est vrai que certaines personnes ont pu me dire, en lisant les comptes rendus, que je choisissais les affaires les pires avec les résultats les pires. Non, je sélectionne pas. J'y reste en général 2 heures. Je vois 2-3 affaires. Je fais des comptes rendus de chacune d'entre elles. Que je publie systématiquement.
En tout cas, la Sellette, c'est un super outil qui est maintenant aussi diffusé sur CQFD tous les mois.
Ah, absolument.
Absolument. Vous n'êtes pas les seuls à avoir fait ce travail-là d'écrire, de retranscrire la justice. Il y a évidemment d'autres initiatives. On pense au Canard Enchaîné, qui est évidemment le travail de la Sellette par rapport au quotidien départementaux. Qui sont bien accros aux faits divers, ce n'est évidemment pas la même chose, mais des initiatives camarades existent, et on pense aussi à Sachez que je n'attends rien de votre institution, qui est sorti sur burburbur.info, et c'est la retranscription complète d'un procès qui s'est passé suite à une personne qui a forcé les grilles de l'Andra lors d'une manifestation en 2017. Extrêmement intéressant document. On pense aussi aux fanzines, en tout cas à la brochure qui est sortie sur le procès du 13-12 en 2022. Ce procès-là, c'est le procès en cour d'assises du policier qui a mutilé Laurent, qui était en manifestation en 2016, manifestation contre la loi travail, qui s'est pris une grenade à l'œil, donc il a éborgné. Dans ce document, en fait, on a des cris de rage, des comptes rendus et des témoignages de ce procès qui s'est donc déroulé le 12, 13 et 14 décembre. On va écouter maintenant Laurent qui va nous expliquer le contexte et l'écriture de ce livret.
Bonjour, je me présente, là, Laurent Théron. Je suis donc la personne, j'allais dire, qui a été jugée, mais qui a été victime donc d'un tir de grenade en 2016 pendant la loi travail. Donc qui fait aussi partie de maintenant, depuis quelques années, du collectif d'abord de l'Assemblée des blessés et aussi de Désarmons-les. Alors déjà, grand merci à la Sellette de nous donner la parole, de pouvoir aussi témoigner de ce qui s'est passé l'année dernière et de pourquoi donc on a produit cette brochure. On s'est dit on allait créer une sorte de compte à rebours tous les 13 pour préparer en fait à ce procès d'Alexandre Mathieu qui m'a donc mutilé aux assises, qui était important en soi, une cour d'assises. Pour un policier, c'était déjà une victoire, on va dire. Entre guillemets, bien sûr, puisque notre rapport à la justice et à tout ce qu'elle comporte est totalement en contradiction avec ce qu'elle est, en fait. Déjà rien que son nom. Et donc, tous les 13, on avait décidé donc de créer un événement. Alors, par exemple, le 13 septembre, on a publié sur notre site Désarmons.net, une réponse à Alexandre Mathieu, donc une lettre qu'il m'avait adressée à un moment bien précis, 3 ans après, à un moment où, d'un point de vue judiciaire, se jouait quelque chose, c'est-à-dire que le procès a été requalifié par le parquet en correctionnel. Ils ont, par un rapport vraiment bien ficelé et bien dégueu, comme ils savent le faire, requalifié donc ma mutilation en blessure permanente, donc qui n'emmenait pas le policier à partir du moment où, avec donc mon avocat de l'époque, on a fait les démarches pour faire valoir que c'est une mutilation, la conséquence pour lui, c'est que ça se passait aux assises. Donc à ce moment-là, il m'avait écrit une lettre d'excuses, mais qui était concrètement une lettre où il se cherche des excuses, comme ils savent bien faire, enfin d'un niveau mythomane, super mythomane même, avec sa cape. Et donc le 13 septembre, voilà, j'ai fait une réponse à cette lettre, et on l'a publiée sur le site. Donc ça, c'était un peu le premier événement, et parallèlement, ce jour-là, on lançait aussi une initiative pour en fait appeler d'autres collectifs victimes de violences policières, que ça soit dans les quartiers populaires, dans les manifestations, ou la période Gilets jaunes qui venait de se terminer, de proposer des initiatives, parce que on avait plein d'idées, nous, mais on pouvait pas tout faire. Donc si d'autres collectifs ou personnes voulaient se lancer, voilà, on avait lancé cet appel-là, le 13 septembre aussi. Le 13 octobre, on avait lancé l'anti-média, l'anti.média, l'adresse l'anti.média, blog qui recense tous les articles qui sortent dans la presse sur les violences policières, les violences judiciaires et les violences carcérales, pénitentiaires, mais de manière, on va dire, très générale. Et donc ce site permet aussi à toutes les victimes et familles de victimes de se rendre compte de l'ampleur, en fait, de quoi ils vont devoir faire face. C'est pas la violence d'un policier, mais d'un système, en fait, hein, tout simplement. Et donc ce blog sert à ça, assez grossièrement, puisque c'est juste des copier-coller qui prennent du temps, mais c'est des copier-coller d'articles. Donc ça, c'était le 13 octobre. Le 13 novembre, il y a eu organisé au lycée autogéré de Paris une après-midi du fabrique du non-lieu où on avait proposé aux victimes, familles de victimes, quelles qu'elles soient, de venir témoigner de comment la justice, la police, les organes du pouvoir organisent le non-lieu. Hein, du maquillage de la crime, de la scène de crime, jusqu'à les procès qui donnent des non-lieux de manière totalement irréelle, en fait. Donc c'était le 13 novembre. Et la veille du procès, on a fabriqué un tribunal populaire où on venait à nouveau mettre en accusation ce qu'on avait envie de mettre en accusation, à la fois des victimes et des familles qui venaient parler de la mise en accusation. Ben, on a mis tout, hein, les armes, on a mis le policier, les policiers, la police, la justice, le tribunal, enfin voilà tout ce que tout le monde voulait mettre en procès de manière ouverte, hein, des sortes d'Athénée totalement où la parole était libre, en fait. Et puis, voilà un moment libération aussi, on va dire, des corps et des esprits avec un feu de joie, où on a pu brûler ce qui nous oppressait, ou ce qui nous avait blessés, mutilés, ou traumatisés. Après, il y a eu donc le fameux procès du 12, 13 et 14 décembre, le procès 13-12. Et il y avait pendant ces trois jours-là des camarades que j'ai croisés pendant ces 6 années et demie d'attente de ce procès, 6 ans et 3 mois, je crois exactement. Et donc ce procès, on l'a tous pris un petit peu dans la gueule, à nouveau, ce qui a amené en fait au fil des semaines et des mois qui ont suivi à pas mal de ses camarades présents de produire des textes, des témoignages, des cris de rage, comme c'est écrit dessus, hein, cris de rage, témoignages compte rendu. Les semaines et les mois, je voulais vraiment plus entendre parler de tout ça. J'avais trop de choses à gérer pour m'investir, me concentrer, me remettre là-dedans. Mais je gardais le truc bien sur mon dos, bien sur mes épaules, bien dans ma tête. Il n'y a pas un jour où j'y pensais pas, en fait, comment ce procès s'était déroulé sur cette mascarade. Et donc, un jour, j'ai pris moi aussi la plume, on va dire, mon crayon à papier, et j'ai commencé à écrire. Et j'ai commencé à écrire et à recouper ce que j'avais envie de transmettre, en fait. Voilà, d'abord, il y avait personnellement besoin de témoigner. D'un point de vue personnel, c'était extérioriser mon ressenti. Mon ressenti du procès. Ressenti général. Un peu aussi cracher, vomir mon venin, ma colère, en fait, suite à ce qui s'était, à ce procès-là. Et ça a fonctionné, je dois dire, à tourner la page, passer à autre chose, et donc à sortir du tribunal. Et en vrai, ça me fait penser aussi à la violence que j'avais subie en recevant cette grenade qui donc explosait l'œil et puis les quelques os du visage. Il y a dans l'effet du choc de la violence policière, il y a le cerveau se met un peu à ruminer. Hein, c'est un terme médical même, ruminer voilà, des scènes, à se les rappeler et tout. Et donc, moi, je suis resté... concrètement, les psychologues que j'avais rencontrés m'ont dit, en fait, il faut que tu sortes de la place, en fait. J'étais sur la place de la République, il faut que je sorte de cet événement, en fait. Je le racontais un peu comme une blague, une situation un peu extérieure, mais j'ai dû passer par un protocole qui faisait qu'il fallait que je me réapproprie, en fait, ce moment-là, que j'en comprenne que c'est moi, en fait, qui est au centre de ça, et d'en sortir. Et là, c'était à peu près le même, donc de sortir de la place de la République, de l'explosion, de la douleur, etc. Et de rentrer dans un processus de guérison, une guérison physique et psychologique. Et là, c'est à peu près la même chose, en fait. Il a fallu écrire, ça m'a permis de tourner la page et de sortir du tribunal, sortir de ce temple du mensonge, comme je le nomme dans le livret, Procès 13-12. Et il y a aussi donc l'autre partie, donc il y a l'apport personnel, mais l'autre partie, c'est l'apport collectif, et qui, moi, m'intéresse vraiment énormément. C'était d'avoir tous ces témoignages-là, où on a le déroulé du procès, hein, on a le compte-rendu du procès au jour le jour, on a des dessins, donc c'est important aussi l'image de donner un peu comme ça, comme une photographie à des moments donnés, à des moments clés. Et puis, il y a aussi des textes de collectif, donc à la fois qu'on a écrit ensemble avec des Armons, et par aussi l'Assemblée des blessés. Il y a aussi un texte de contre-attaque, de camarades de la Legal Team. Il y a même un camarade qui s'est mis à écrire une chanson. Et donc, tous ces textes, toute cette création, en fait, on a compilé ça pour en faire une trace, parce que ce qui s'est passé pour moi se repassera pour d'autres. Donc c'était montrer c'était décrire ce qu'il s'est passé dans le tribunal, mais et donc préparer à quoi les futures victimes doivent s'attendre dans l'éventualité qu'il y ait un procès, puisque c'est une grosse difficulté des violences policières. D'où cet épisode du 13 novembre au lycée autogéré de faire une journée sur la fabrique du non-lieu, puisque la violence judiciaire, on parle de violence policière, mais en vérité, on devrait parler plus de violence d'État d'une manière plus globale. Mais le terme de violence policière, il correspond même plus, en fait, puisque il y a une violence judiciaire qui est bien violente. Ce témoignage, il sert à ça, c'était rappeler que la violence judiciaire, elle est là pour pour valider la violence policière. C'est son prolongement. Et en tant que victime de violence policière, la violence judiciaire est une autre violence. Je pense qu'il faut vraiment dénoncer la justice sur ce qu'elle est, sur sa forme, hein, sa forme archaïque, moyenâgeuse, des personnes qui arrivent déguisées sur un piédestal en hauteur dans des salles qui datent d'un autre temps, en fait, hein, et même quand elles sont modernes, d'ailleurs, elles sont un peu la même architecture au-dessus des masses. Et sur le fond, voilà, c'est soi-disant des personnes qui sont à l'inverse des policiers, c'est-à-dire qu'ils sont des personnes qui sont censées avoir lu des livres et qui sont censées étudier des lois, les faire respecter. Mais ils sont pas capables, en fait, d'imposer ce qu'ils imposent au peuple, ni à eux-mêmes, ni aux policiers. Et donc, c'est vraiment très important, ouais, de dénoncer la justice. Donc, voilà aussi à quoi sert ce petit fascicule.
Concernant le verdict, le CRS Alexandre Mathieu est déclaré coupable de violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente, fait commis en qualité de personne dépositaire de l'autorité publique. Mais Alexandre Mathieu bénéficie pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale. Il n'est pas pénalement responsable si son acte est commandé par la légitime défense. Donc je le rappelle, légitime défense qui a été savamment construite pendant 3 jours de procès, en décrivant la manif du 15 septembre 2016 comme la pire de tous les temps pour les flics, et en apportant des preuves comme la vidéo d'un cocktail lancé une heure avant les faits, ou encore une photo de la manif ayant fait la une de Paris Match. On remercie bien évidemment Laurent pour son témoignage et rappelons que la brochure Procès 13-12 est consultable et téléchargeable et aussi et surtout diffusable sur le site Désarmons-les. On pourra retrouver l'intégralité du témoignage de Laurent sur le site de Canal Sud ou de la Sellette.
Ouais.
On a dû malheureusement faire un montage puisque l'émission ne doit pas dépasser l'heure et demie. Mais on pense aussi à ce qui s'est passé plus récemment au bloc pour les personnes inculpées du 8 décembre. Bon, on a parlé de ces trois initiatives, évidemment il y en a plein d'autres. On pense aussi aux comptes rendus qui sont faits sur les sites par les collectifs anti-répression, les caisses de solidarité. Et évidemment, on encourage toutes les personnes à... garder un œil sur l'institution judiciaire et les violences qu'elle produisent au quotidien, bien évidemment. On peut faire un petit point agenda également ?
Ouais.
On aimerait parler du nouveau week-end anticarcéral qui va se passer à Toulouse les 26, 27 et 28 janvier. On vous invite à regarder sur le site iata.info pour les informations. Iata, I-A-A-T-A, les informations anti-autoritaires de Toulouse et alentour.
On vous invite aussi à suivre attentivement, et c'est évidemment étroitement lié, les coups de pioche et de bulldozer qui vont pas tarder à se faire sentir du côté de Muret, car on est toujours sur le projet d'une création d'une deuxième maison d'arrêt à Muret, alors même que les recours n'ont pas tous été étudiés par le tribunal administratif, il semblerait que ça s'agite du côté de Muret.
Eh ben, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Tapage ex Bruit d'audience.
Pour finir, vous allez écouter la chanson We Don't Wanna Be Prisoners du groupe suisse Chin Chin.
Voilà, merci à l'équipe de Tapage. Je reprends l'antenne avant de la rendre. Vous venez d'entendre donc dans Les Amis d'Arwell la toute nouvelle émission anticarcérale fabriquée à Toulouse et diffusée une fois par mois sur Canal Sud. Retrouvez donc sur canalsud.net l'émission Tapage, ça s'appelait avant Bruit d'audience. Retrouvez aussi les chroniques de La Sellette sur lasellette.org et la brochure du procès 13-12 sur le site desarmons.net. Les Amis d'Orwell, c'est une diffusion un vendredi sur deux et toutes les semaines paires à 21h sur 89.4 archives-sourier.info. Bonne fin de soirée sur Radio Libertaire.